Chers amis auditeurs, amis auditrices, bonsoir. Nous revoilà dans une nouvelle émission d'Enquête de cinéma. Ce soir, nous vous présentons un entretien réalisé par notre ami Eddy avec le photojournaliste Jacques Windenberger. L'entretien se déroule à Nove, chez Jacques et son épouse Marcel, dans un mas provençal proche d'Avignon. Comment représenter au mieux la complexité du monde et ne pas tromper dans le spectaculaire ni le fait divers? Comment produire des images qui suscitent le débat et la confrontation? Jacques Windenberger, un photographe concerné, plutôt que militant. Son approche photographique se rattache à l'école documentaire, qui s'oppose à la photographie sensationnelle. À la différence de celle-ci, il travaille sur la durée et le quotidien pour mieux étudier l'évolution de notre société en profondeur. Voilà pour le petit résumé, nous vous souhaitons une bonne écoute.
Comment vas-tu?
Et toi?
Ouais, bien.
Bah oui.
Dis donc, c'est pas un temps à mettre un photographe dehors, ça.
Pas vraiment, ah. Non. Pas vraiment.
Tu vas bien?
Oui.
Ouais.
Tu m'as rapporté les trucs que tu
disais. Oui, bien sûr, bien sûr.
Ça va? Tu vas te remouiller, non?
Non, non, ça va.
Bon, c'est
ça
bon.
Ça va, ça va.
Allez, allez.
Attends, je me sèche les... Ouais. Bonjour, Marcel.
Il faut presque allumer la lumière.
Ah oui, mais... c'est incroyable.
Hein. Bonjour. Alors... Il pleut, Marseille?
Oui, il pleut.
Ah, oh, moi, je suis contente. Je m'attendais cette pluie. Il y a des jours et des jours qu'il n'a pas plu. Tout est sec. Oui, on va pas se plaindre.
Mais le jardin, il est encore vert. Hein. Comment ça se
fait? Oui, oui, ben, on arrose. Ah, si on n'arrosait pas, il n'y aurait plus rien.
Oui.
Ah, oui.
Non, je ne comprends pas qu'on ne puisse pas t'héberger parce qu'on est fatigué. Marcel est fatigué le soir.
Je comprends très, très bien.
Bon, c'est
très,
bien, très bien, c'est bien. Ça, je n'en doute pas.
À 90 ans, tous les deux, on ne fait plus guère dès que ça me fait.
Le soir, à 7h, on est HS. Bon, eh bien, on va monter.
Vous allez en haut?
Oui, oui, ben oui.
Vous faites comme vous.
Oui. Mais je suppose qu'il faut voir les images.
Alors, ce matin, je te propose.
Ah, ben, c'est toi le pilote, hein.
Ouais, on parle. On teste après-midi.
Bon,
on verra les images, mais là, pour l'instant, je propose de discussion.
Ah, ben, très bien.
De ton parcours, de ton rapport à la photo.
Eh bien,
oui, là, attends.
Non, non, mais dans ton bureau, c'est bien.
Non, mais on est plus confortable, là.
Essayez.
Alors, c'est au premier, hein.
Oui, oui. Oui, il n'y a pas assez gros.
Alors, fatigué ou ça va?
Oh, ça va, mais fatigué, mais la DMLA s'accentue. Là.
T'as quoi?
DMLA.
C'est quoi ta
DMLA? Dégénérescence de l'œil. Oui. Eh oui, j'y vois presque plus. Et on me fait des injections, surtout l'œil droit, l'œil gauche. Déjà, il était HS. Et DMLA, oui, oui. Il y a un moment que je l'ai, hein, mais ça ne s'arrange pas. J'ai des injections tous les mois à peu près.
Et pour un homme dont l'outil de travail, c'est la vue.
Oui.
Ça doit faire bizarre, non?
Eh bien oui, oui, oui. Tout à fait. Bon, c'est une bonne intro. C'est une bonne intro, ça, oui.
Ouais. On s'assied où alors?
On va s'asseoir là, oui, attends.
Tiens. Alors, est-ce que je peux décrire ton bureau?
Ah, ben tu peux faire ce que tu veux, tiens.
Alors, il y a des piles. Il y a des piles partout, avec des dossiers, alors des photos bien sûr, des livres, avec beaucoup de livres de photos, ce qui n'est pas surprenant.
Et puis il y en a encore là.
Ah oui, donc il y a deux étagères remplies de bouquins de photos.
Pas trop de bazar.
Non.
Ranger, c'est difficile, c'est toujours pas recommencer.
Il décrit mon environnement.
Ah, d'accord.
Alors, donc, et surtout, alors, il y a...
C'est parti de l'environnement.
Immédiat.
C'est à Marcel, vas-y, tu peux répéter ce que tu as dit à Marcel.
Oui, je disais que tu fais partie de mon environnement le plus immédiat. Voilà. Bon, moi, je vais me mettre...
Alors, donc, il y a une armoire, mais entière, avec des tiroirs. Alors,
j'imagine ce que ça c'est. Une armoire, enfin, un meuble à tiroirs. de mes parents et grands-parents qui tenaient un commerce de lingerie, bonneterie, trousseau, et ça, c'était des tiroirs à gants. Et avant, je rangeais mes films. C'est de la bonne qualité, hein, ça, parce que ça s'entend ou presque, ça.
Il y avait des boîtes Kodak, des tirages, et puis surtout, chaque tiroir est identifié.
Et dans ces boîtes-là, il y a une centaine de CD photos. Toutes les images qui sont à la CEF, Société des auteurs d'art visuel et de l'image fixe, dont je fus un des premiers adhérents. Voilà.
Et puis tu as une très très belle vue là, voilà. Sur le jardin aussi. C'est pas mal comme cadre.
C'est idéal.
Et puis des photos, ouais. Tu peux voir. Donc on va s'asseoir là. Attends, oui. Je vais couper et je vais aller chercher les affaires dans la voiture.
Ah oui, c'est bien. Tu veux un parapluie? Non, il ne pleut pas trop, ça va.
C'est un endroit qui ressemble à la Louisiane, à l'Italie. Il y a du linge étendu sur la terrasse. Et c'est joli. On dirait le sud. Le temps dure longtemps. Et la vie sûrement. Une million d'années.
Ça tourne, Jack.
Ça tourne.
Écoute, on va commencer par peut-être par faire un petit déroulé de ton parcours. On est aujourd'hui donc à Neuve, chez toi.
Tout à fait.
Chez toi et Marcel, ta compagne.
Oui, on est dans la maison natale de Marcel. Parce qu'elle est, provençale de souche, comme on dit.
Mais elle m'a raconté.
Pas moi.
Ouais. Donc toi, tu es de Bourg-en-Bresse.
Je suis natif de Bourg-en-Bresse, dans l'Ain, le pays du poulet de Bresse. Je suis un ventre jaune. Parce que, on disait ça parce que je mangeais souvent de la soupe de maïs, paraît-il. Mais je suis d'origine lorraine, comme mon nom l'indique.
Ah oui, d'accord. Bilenberger, c'est lorrain.
Voilà.
D'accord, mais toi, tu es né...
Ah, je suis né à Bourg-en-Bresse, en 1935.
Si je fais un bref calcul, 1935-2025.
Eh bien, je vais avoir 90 ans au mois d'octobre, il n'y a pas d'histoire. Hein. Il faut y aller. Il faut déjà y arriver.
Et si on t'avait dit que tu allais vivre quand tu avais 20 ans jusqu'à 90 ans?
Bon, à l'époque, je ne me souciais pas de ces questions-là.
Et aujourd'hui?
Ah ben, c'est-à-dire que si je ne m'en soucie pas, je m'en aperçois. Non, mais bon, il y a le physique. Est-ce que je suis atteint d'une maladie pénible aux yeux, ce qui, pour un photographe, n'est pas l'idéal. Une démela, c'est-à-dire une dégénérescence des yeux, de l'œil droit surtout. Et j'ai des injections tous les mois pour essayer de que ça n'empire pas, disons. Voilà. Mais j'y vois et j'ai beaucoup de mal à lire. Et à voir aussi, bon. Mais enfin, quand même, hein, y a pire.
Donc 90 ans, donc combien de temps consacré à la photo?
Oh, ça a démarré parce que j'étais malade dans ma jeunesse, dans mon adolescence, et ma mère m'a offert un appareil, j'avais 14 ans. Alors, il faut faire le calcul, quoi. Bon, disons que je n'ai pas arrêté depuis. Oui, il y a des photos partout ici. Bon, et je suis environné, là, tout ce qui est rayonnage de bibliothèque sont des livres de photographie ou qui ont trait à la photographie au niveau théorique, recherche, etc. Donc
ta mère t'offre un appareil à 14
oui,
ans.
Et ça m'a plu, quoi. C'était un loisir, et puis peu à peu, c'est devenu un métier. Professionnellement, j'ai commencé à travailler comme stagiaire d'abord dans une agence de presse qui n'existe plus, qui s'appelle Keystone, qui a été rachetée ensuite par Gamma, je crois. On me faisait faire des choses qui n'étaient pas palpitantes, c'est-à-dire des sorties d'Élysée ou des choses assez insignifiantes.
Travail de reporter photographe.
Mais enfin bon, du news, j'allais dire de bas étage, j'ai jamais couvert de conflits, disons. Donc ça ne m'emballait pas, d'autant que parallèlement, j'habitais Sarcelles, un grand ensemble de la région parisienne qui était à l'époque, enfin, l'archétype des grands ensembles. J'avais commencé à tenir une chronique de la vie quotidienne sur divers sujets, l'habitat, le travail, les transports, etc. Et disons que ce thème de la vie quotidienne a été constant dans tout mon parcours. C'était vraiment l'antithèse de ce que l'on me faisait faire dans cette agence de presse.
Qu'est-ce qui est différent ?
Ben, ce qui est différent, c'est que dans un cas, ça concerne la vie des gens ordinaires, comme on dit, qui sont d'ailleurs souvent extraordinaires. Et dans l'autre cas, bon, c'est plutôt les personnalités, ce qu'on voit dans la presse le plus souvent, quoi. Hein. Ce qui m'intéressait peu. Et surtout parce que je ne disposais pas du temps qui m'apparaissait nécessaire pour faire ce qui est devenu quand même ma spécialité, disons, le genre photographique auquel je me rattache, c'est-à-dire la photographie documentaire, laquelle implique une durée du temps à consacrer et non pas des images vite faites, souvent plus ou moins bien faites, parfois volées ou en tout cas sur des sujets qui ne me passionnaient pas et que je ne pouvais de toute façon pas approfondir.
Mais du temps pour quoi faire ?
Du temps pour creuser un sujet, révéler, enfin mettre à jour la complexité du réel. C'est ça qui m'intéresse, montrer les différentes facettes du phénomène. J'ai traité en ce sens deux grands chantiers, l'un à Sarcelles, où j'habitais précisément, que j'ai habité pendant 15 ans de mémoire, dans les années 60, et j'y suis retourné dans les années 90, 92, 94, pour montrer l'évolution des choses, la vie des gens, la transformation de la société. Bon, ça, c'est un des grands chantiers que j'ai abordé. Et l'autre, c'est Fosse et Tandberg, dans les années 70, que j'ai retrouvé 10 ans après également, parce qu'il m'apparaissait tout à fait passionnant, parce qu'il comportait beaucoup de thématiques montrant la société, le monde actuel, qu'il s'agisse de l'environnement, de la pollution, des émigrés, de l'industrialisation, de la mondialisation, et j'en passe. Donc là, on retrouve cette complexité du réel et souvent des interdépendances entre ces divers thèmes.
Donc on va revenir sur Sarcelles, par exemple. Qu'est-ce qui t'intéresse, toi, sur le plan esthétique, photographique ? Ces grands ensembles, villes modernes.
Pour moi, l'esthétique, c'est un moyen d'expression. Et ça fait référence à mon livre de 1965, « La photographie, moyen d'expression, instrument de démocratie ». J'y reviendrai sur ce sous-titre. Sarcelles m'intéressait parce que je me rendais compte que c'était la représentation d'un mode de vie qui se généralisait, qui existait depuis longtemps, les banlieues et plus précisément ce qu'on a appelé après les cités. Ce qui m'intéressait là, c'était Par exemple, je disais relier les différents thèmes entre le transport et l'habitat. Bon, il fallait prendre le train tous les jours et le matin et le soir pour aller travailler à Paris. Bon, la consommation, au départ, il n'y avait pas de commerce. Le transport, le commerce, la vie sociale, il y a eu jusqu'à une centaine d'associations, donc j'ai appartenu à plusieurs. Et c'est là-bas que j'ai rencontré ma première épouse et la seconde également, après le décès de la première. Et donc Sarcelles, pour moi, c'est très important dans mon parcours sur divers plans.
Y compris sentimental, puisque tu m'as dit...
Je disais associatif parce que j'ai été adhérent, puis directeur adjoint de la Maison des Jeunes et de la Culture de Sarcelles, où on avait beaucoup d'activités. Enfin, à l'époque, c'était un lieu social très, très, très intéressant, et non pas ce que sont devenues certaines maisons de la culture ou des jeunes. Après, ce n'était pas un lieu de consommation, c'était un lieu d'activité.
Alors, en 59, oui. Tu fais ton stage à l'agence Kestone, oui, 59-60.
Oui.
En 61, tu habites à Sarcelles et tu deviens donc directeur de la MJC, voilà, de Sarcelles. Voilà. Et en 1969, oui, t'arrives dans les Bouches-du-Rhône. Et entre-temps, en même temps, parallèlement à la MJC... En fait, tu continues à piger en photo,
oui, oui, oui,
pour des magazines, et en particulier, oui, pour des magazines syndicaux, La, oui, Vie Ouvrière, oui, oui, le, ça, magazine, oui, de la CFDT.
Voilà. Mais je suis venu dans les Bouches-du-Rhône parce que j'en avais marre, pour Keystone, de faire des pseudo-événements tous les jours. Et je voulais m'implanter dans une région pour travailler sur cette thématique de la vie quotidienne. Donc, j'ai choisi, ou je ne sais pas, il y a peut-être une autre raison pour avoir choisi Marseille. Oui, plutôt que Roubaix, oui.
Donc la vie quotidienne des gens ordinaires.
Voilà, voilà, oui. Ben, je n'ai jamais fait que ça, pratiquement. Oui, j'avais fait un stage à Réalité, la revue Réalité, qui était une revue prestigieuse, un stage de 2 mois. Mais ça m'intéressait beaucoup. Et donc, oui, je suis photojournaliste, on disait freelance avant, hein, c'est-à-dire photojournaliste indépendant. Et j'ai toujours été indépendant, de caractère même. Hein.
Oui, merci. Comme on est, hein.
Indépendant de caractère, on peut l'interpréter de différentes manières.
Ah,
ça,
oui,
hein.
On fait la pause café.
Oui, on fait la pause café. Allez, on se coupe. Allez.
Est-ce ainsi que les hommes vivent? Et leurs baisers au loin les suivent. C'était un temps déraisonnable, on avait mis les morts à table, on faisait des châteaux de sable, on prenait les loups pour des chiens, tout changeait de pôle et d'épaule. La pièce était telle ou non drôle, moi, si j'y tenais mal mon rôle, c'était de n'y comprendre rien. Dans le quartier Hohenzollern, entre la Sarre et les casernes, comme les fleurs de la luzerne, fleurissaient les seins de Lola. Elle avait un cœur d'hirondelle sur le canapé du bordel. Je venais m'allonger près d'elle dans les hoquets du pianola. Est-ce ainsi que les hommes vivent et leurs baisers au loin les suivent?
Le ciel était gris de nuages, il y volait des oies sauvages qui criaient la mort au passage au-dessus des maisons des quais. Je les voyais par la fenêtre, leur chant triste entrait dans mon être et je croyais y reconnaître du Rainer Maria Rilke. Elle était brune et pourtant blanche, ses cheveux tombaient sur ses hanches, et la semaine et le dimanche, elle ouvrait à tous ses bras nus. Elle avait des yeux de faïence et travaillait avec vaillance pour un artilleur de Mayence qui n'en est jamais revenu.
Est-ce ainsi que les hommes vivent et leurs baisers au loin les suivent?
défilé d'autres soldats en ville. Et la nuit, montent les civils. Remets du rimmel à tes cils, Lola, qui t'en ira bientôt. Encore un verre de liqueur. Ce fut en avril à 5 heures, au petit jour que dans ton cœur, un dragon plongea son couteau. Est-ce ainsi que les hommes vivent? Et leur baiser au loin.
Oui, ça y est, ça me...
Donc, quel souvenir de Jacques? C'est un jeune homme avec son appareil en bandoulière
Non, pas du tout. Quelqu'un de très sérieux qui faisait un travail qui m'intéressait aussi.
Alors, c'était comment la vie quotidienne des gens ordinaires à Sarcelles?
Je veux dire, elle était essentiellement conditionnée par le travail, et pour la plupart, c'était Paris. Et oui, j'ai le souvenir d'une série de photographies que j'ai faites à la gare. À 6 heures du matin, c'était les ouvriers, et on voyait à leurs vêtements le distinguo des divers publics selon les heures. À 7 heures, c'était les gens qui travaillaient dans les bureaux, et je dirais à 8 ou 9 heures, c'était les plutôt les femmes de ménage qui partaient à 6 heures travailler à Paris. Donc oui, je dis que la vie à Sarcelles était d'abord conditionnée par le transport, puisque mis à part des commerçants, et il n'y en avait pas beaucoup, ou des fonctionnaires de la mairie, je pense que je peux oublier d'autres, tout le monde travaillait à Paris ou dans d'autres agglomérations, mais enfin surtout à Paris quand même.
Hein. Oui, donc le train prend une importance.
À l'époque, c'était pas le RER, hein. C'était des trains qui mettaient une demi-heure après Saint-Denis et Paris, Gare du Nord. Et bon, quand est arrivé le RER, mais nous on n'était plus là. Ça a été là, quand même un changement, je pense, pour les Sarcellois très important, puisque au lieu de. En un quart d'heure, ils sont à Paris maintenant.
Et donc en 69, tu arrives dans les Bouches-du-Rhône, tu habites où?
Aix-en-Provence. Parce que j'avais des amis qui habitaient Aix, un économiste de renom, Maurice Parodi, et René Caes, psychologue, également auteur connu dans sa partie, Aix-Sud. Parce qu'il y avait les hauts d'Aix, hein, c'était les grands bourgeois qui habitaient au pied de la Sainte-Victoire. Moi, j'étais un bas bourgeois, donc j'habitais au pied du Montaiguet, qui était une petite montagne au sud d'Aix. Dans une maison que j'ai acquise, qui était une excellente affaire, qui coûtait deux fois rien à l'époque.
Alors pourquoi Aix et pas Marseille? Alors t'habitais à Aix et en même temps, t'as été rapidement attiré par Marseille. Et toi, Jacques, donc, oui. J'ai pas vu que t'as travaillé en photo sur Aix.
Ah oui, ah, beaucoup. Dans la même optique. De la vie quotidienne. Hein. J'ai retrouvé également à Aix le thème de la banlieue, enfin des cités, Jas de Bouffant et autres, cité Besson. J'ai donné d'Aix une représentation à l'opposé du stéréotype de la ville bourgeoise, Aix, ville d'eau, ville d'art, voilà, n'est-ce pas, en montrant que la majorité de la population n'habitait pas Courmirabeau, par exemple.
Il a toujours fallu qu'il aille un peu gratter le poil. Le poil à gratter, c'était toujours...
Non, mais surtout, d'aller là où les autres ne vont pas. Oui, c'est-à-dire, oui. La réputation d'Aix, on est déformé par notre imaginaire.
Oui, donc, oui.
Donc, comment... Aix, c'est synonyme de culture, d'art,
oui,
de richesse,
oui,
qui existe.
Qui existe. Mais enfin, bon, je n'ai pas fait que des photos du festival, par exemple. Donc,
Mais pourquoi aller là où les autres ne vont pas? Pourquoi aller au mauvais endroit?
C'est pas un mauvais endroit, au contraire.
Non, c'est ironique. Mais,
ouais. Au contraire, je veux dire...
Pourquoi faire un pas de côté?
Ben, j'ai souvent eu, ou j'ai encore, je pense, un regard un peu décalé, au-delà des clichés. Qu'est-ce qu'il y a autour, quoi? Et souvent, c'est passionnant ce qu'il y a autour. Ça met en évidence ce qu'il y a à l'intérieur, en opposition.
Enfin, je pense le fait que ça concernait une grosse partie de la population. On parle toujours que mais, la catégorie en dessous, il y a quand même des milliers et des milliers de personnes, toujours. On voit que le dessus, que la crème, quand on veut bien. Mais dès qu'on descend un peu...
Ce qu'on appelait communément la classe ouvrière.
Voilà. C'est une expression peu usitée aujourd'hui. Sans doute qu'il y a de moins en moins d'ouvriers. Des gens de classe populaire, c'est quand même encore la majorité. Mais il y a de plus en plus de gens, comme tout un chacun le sait, surtout quand on s'intéresse à la sociologie, c'est le secteur tertiaire qui les services... c'est-à-dire des caissières, qui ne sont pas des ouvrières, mais enfin qui ont la même condition, si ce n'est pire, que des employés.
Ben,
avec les sous-traitances, etc., qui vont avec.
Ben, j'essaie de comprendre comment se fait-il qu'un fils de petit commerçant, de bonneterie, s'intéresse...
Moyen commerçant, quand même, ce n'était pas une boutique. Il y avait plusieurs vitrines qui... Et bon, ça m'intéresse un peu. J'ai été malade dans ma jeunesse, je l'ai déjà dit. Mais j'ai essayé de travailler au magasin de mes parents, enfin, qui m'ont proposé un peu. Mais ils me faisaient faire des étiquettes, alors c'était pas passionnant. Non, je plaisante à peine, mais. Et là, j'ai eu envie de faire autre chose et j'ai trouvé une place d'apprenti au départ dans un journal local qui s'appelait pompeusement Le Courrier de Bourg-en-Bresse et des Pays de l'Ain, un quotidien. Mais enfin, ça m'a mis le pied à l'étrier de mon métier de journaliste. J'étais rédacteur là, parce qu'il n'y avait pas de photographie dans ce journal. Voilà, ça a démarré comme ça et ensuite, donc j'ai fait ce petit stage de 2 mois en réalité. Ensuite, j'ai commencé mon travail d'indépendant. Donc, je ne sais plus quel âge j'avais là, mais que je n'ai pas cessé de faire depuis.
Alors, je te repose la question.
Oui.
Comment se fait-il qu'un fils de moyen commerçant s'intéresse de manière constante, comme une obsession? Alors, c'est Sarcelles, c'est l'immigration, c'est les cités c'est l'immigration à Marseille, c'est les cités à Aix. Oui. C'est quand même ça une permanence de ton travail, quand
oui,
même, s'intéresser
oui.
aux invisibles, comme on dit.
J'avais pas l'âme de commerçant. Mon frère, qui a 10 ans de moins, n'a pas non plus repris le fonds de commerce de mes parents, qui a été vendu. Lui a fait des études de psycho et il est quand même devenu secrétaire général de la Chambre de commerce de l'Ardèche. Mais bon, je n'avais pas de vocation commerciale du tout. Et j'ai jamais été bon dans les comptes. Et j'ai toujours eu un rapport difficile. Parce que je ne suis pas matheux du tout. J'ai eu 4 sur 40 en maths au BEPC, c'est dire. Mais j'avais 19 sur 20 en français quand même. Hein. La question c'était par rapport à... oui. Oui, au commerce, donc je ne suis pas commerçant du tout. Moi. J'ai toujours eu du mal à vendre mes photos. Oui, c'est aussi parce qu'elles ne sont pas d'un caractère très commercial, il faut dire. Et j'ai passé les 2/3 de mon temps à chercher du boulot, à chercher des commandes.
Et puis aussi une chose que toi tu ne dis pas parce que tu n'en es pas conscient, mais il est très curieux, il faut toujours qu'il pose des questions. Toujours, toujours. Le pourquoi et le comment. Dès qu'il rencontre quelqu'un, il pose des questions. Il veut savoir le pourquoi des gens, des choses. Tout l'intéresse, tout. Moi, de temps en temps, je lui dis, ben, pourquoi tu demandes ça? Qu'est-ce que ça peut te faire? Quel intérêt? Tout le temps. Il est très curieux. La curiosité, ça amène à découvrir des choses. Et peut-être qu'après, la curiosité a été plus importante et l'a amené...
La curiosité, mais peut-être aussi que l'appareil photo est un prétexte aussi pour aller échanger, rencontrer...
Oui, pour voir ce que beaucoup de monde ne veut pas voir aussi. Je veux dire, bon, j'ai beaucoup photographié de bidonvilles, par exemple, de cités. Ma fille aînée dit, tu photographies jamais les riches. Bon, je photographie quelques-uns, mais j'ai beaucoup de photos de gens de conditions modestes dans ma collection, c'est sûr. De par le monde, d'ailleurs. Hein.
Regarde là ma ville. elle s'appelle Bidon. Bidon, bidon, bidonville, vivre là-dedans c'est coton. Les filles qui ont la peau douce la vendent pour manger. Dans les chambres l'herbe pousse, pour y dormir faut se pousser. Les gosses jouent, mais le ballon c'est une boîte de sardines bidon. Donne-moi ta main, camarade, toi qui viens d'un pays où les hommes sont beaux. Donne-moi ta main, camarade, j'ai cinq doigts moi aussi, on peut se croire égaux. Regarde-la ma ville, elle s'appelle Bidon. Bidon, bidon, bidonville, bidon. Donne-moi ta main, camarade, toi qui viens d'un pays où les hommes sont beaux.
Alors Jacques, on va revenir sur un travail que tu as fait pendant plusieurs années à Marseille, et tu en as fait même l'objet d'une exposition qui s'appelle « Images de Marseille, questions... »
D'un livre.
D'un livre, qui s'appelle « Images de Marseille, questions de fraternité ».
Tout à fait.
Et là, c'est vraiment les photos, à partir des années 60, des immigrés à Marseille.
Oui, celle-ci, oui, ça, ils sont immigrés, il n'y a pas de doute. C'est les nettoyeurs des tankers.
Alors là, donc on voit une photo, donc c'est une photo de groupe, où il y a des ouvriers qui sont... Alors c'est de la graisse de...
Ils sont acculés, oui, par tout ce qu'ils enlèvent, qu'ils nettoient au fond des tankers. Les tankers, ce sont les cargos de Marseille, hein, qui charrient les conteneurs, etc. Voilà.
Alors, c'est une photo, il n'y a que des hommes.
Ah oui, ça, j'ai jamais vu de femmes au fond des tankers.
Donc, ils sont en tenue de travail.
Oui.
Il y en a qui ont une casquette, il y en a qui ont un casque de chantier, il y en a qui ont un bonnet.
Et d'autres qui n'ont rien du tout.
Et d'autres qui n'ont rien du tout.
Il n'y a rien, oui. Ça, c'était un gitan.
Et surtout, ce qui...
Angelo, il s'appelait.
Ce qui ressort, alors, il y en a un qui enlace l'autre par le cou. Et il y a une grande fraternité entre eux. Est-ce que c'était le cas ou comment c'est venu?
J'allais dire qu'ils sont solidaires de fait, hein, dans leur travail. Mais je me souviens, je crois bien que j'ai interviewé. Oui, j'avais passé un moment avec eux, je ne sais pas si c'est la journée, enfin je ne me souviens plus. Mais il y en a plusieurs, hein, elle fait partie d'une série.
Ah, ça c'est les portraits.
Oui, mais c'est la même série tout ça. Ah. On les voit au boulot là. Ah. Voilà, ils sont au fond de cet engin, ils vont au boulot là. Et là, ils viennent de s'habiller dans ce conteneur qui leur sert de vestiaire, voilà. Voilà, là c'est leur embauche. À la journée.
Alors ça a l'air crade un peu comme travail.
Ça. Ah ben c'est pas de l'hôtellerie, hein.
Et donc leur travail c'est quoi? C'est de nettoyer les
cuves. Nettoyer, oui, voilà Angelo avec sa famille là.
Alors là c'est chez lui avec son enfant,
chez lui,
sa
oui.
femme.
De mémoire, il habitait La Castellane, à Marseille.
Et comment t'as pu rentrer dans les tankers?
J'ai le souvenir, j'avais obtenu une autorisation permanente du PAM, le port autonome de Marseille, qu'on n'appelle plus comme ça aujourd'hui. Et je pouvais aller où je voulais, à Foz comme à Marseille.
Pourquoi Marseille et pourquoi les immigrés, la vie quotidienne des immigrés à Marseille?
Je dirais les immigrés ici comme ailleurs, puisque je m'y suis toujours intéressé, parce qu'ils sont nombreux à Marseille. Mais enfin, je n'ai pas photographié que les immigrés. Là, on a de la chance d'en trouver davantage que dans la rue Paradis, dans ce bidonville de l'Estac, là, que l'on voit là.
Donc on voit des baraquements.
Oui.
De fortune.
De fortune, oui. Le mot est élégant, je trouve.
Ou d'infortune.
Ou d'infortune. Tiens, regarde.
Avec une carcasse de voiture devant. Un jeune qui est un peu statique.
Oui, c'est pas un Suédois. Hein.
On ne sait pas ce qu'il fait. Des enfants.
Oui, il y a des gosses, là.
En couche-culotte. La maman, on imagine. Femme, là. À gauche. Et un terrain vague, c'est au milieu de nulle part.
Ah ben oui, oui, non mais c'est... Là encore, tu vois la notion de série dont je parlais ce matin. Bon, il n'y en a pas qu'une sur le même... La suivante qu'on vient de voir, c'est un détail de ce plan général-là. Bon, là, en deux images, on en dit plus que uniquement avec ce plan général. Bon, là encore, on est dans le même... Là, c'est en couleur, on dirait. C'est dans ce quartier-là. Donc là, on retrouve la baie Marseille et Marseille dans son ensemble. Là encore, on a le contexte dont je parlais ce matin.
Et donc il y a aussi, alors dans le livret là que j'ai sous les yeux, il y a aussi d'autres photos qui sont plutôt là des photos en intérieur. Et avec des légendes. Ah, là, on voit une dame qui visiblement est une femme de ménage.
On va la trouver là. Là, on est à l'Estac, là encore. Donc, c'est l'habitat populaire, si tu veux, qui m'intéresse. Alors là, c'est flagrant. Certaine intimité, le jardin. Bon.
Donc là, une rue
des gamins qui vont à l'école.
Des gamins qui vont à l'école avec cartable sur le dos.
Les restanques.
Alors, ce qui me frappe aussi dans tes photos, c'est l'importance des légendes.
Ah, ben, c'est capital, les légendes. Je veux dire, une photographie documentaire sans légende, elle est bonne pour la poubelle. Il faut toujours, moi je suis toujours astreint à dire aux étudiants, mettez des légendes, autrement ça n'a pas de valeur, c'est-à-dire le lieu, le sujet et la date. Sur vos planches contact, le recto, le verso est aussi important que le recto. Derrière, il doit y avoir les légendes.
Et alors les légendes qui ne sont pas simplement des informations, mais qui sont aussi une manière, un récit en fait. Alors cette dame-là qui est dans un bureau, donc on imagine qu'elle vient tôt le matin pour faire nettoyer les bureaux, et la légende dit ceci, chaque matin à 7h30, Bonnie, comorienne, nettoie les bureaux de la FNAC. Employée dans une entreprise de nettoyage industriel, elle travaille en moyenne 5 heures par jour dans divers établissements pour moins de 2500 francs. Par mois, 2500 francs par mois, ça fait aujourd'hui oui. 500 euros.
Et la date, sans doute.
Et la date, non, t'as pas la date.
Bah, c'est les années 70, ouais. Je sais pas pourquoi.
Et juste la photo d'en face, là, on est dans un intérieur.
Bah, c'est toujours elle. Hein.
Ah, c'est toujours elle, d'accord. Et donc là, cette fois-ci, tu l'as suivie chez elle, dans une cuisine un petit peu exiguë, on sent que c'est une cuisine qui fait...
Deux pièces au panier.
Ça l'a mangé.
Oui, et donc, il y avait six personnes.
Donc, elle habite un deux pièces sous les toits au panier, avec son mari, sa fille Fatima et ses deux frères, plus un cousin arrivé récemment.
Voilà. Donc, sauf erreur, ça doit faire six personnes. Donc, là.
Et puis, alors, moi, il y a une photo que j'adore. Là, on est dans le magasin de la FNAC, donc avant son ouverture. Il y a une dame de ménage qui est de dos, et puis des écrans, une succession d'écrans. Et sur chacun des écrans, il y a ce slogan « Cet été, prenez le temps sur Antenne 2 ». Et la légende, c'est « Entre 7h30 et 9h à la FNAC, ménage au rayon TV ».
Voilà, elle fait la poussière des écrans.
Et donc ça raconte autre chose, ça raconte à la fois l'image, le contexte de l'image, mais on sent quand même une volonté de faire un récit.
De documenter, ah oui.
Alors, pour revenir aux photos sur les tanks, là, j'en ai une qui... Donc, la légende, c'est « ils font les tanks », donc c'est une expression.
Oui.
Ils font les tanks, embauchés à la journée, voilà. Africains et gitans, nettoient les cuves des pétroliers en réparation sur le port
voilà.
À Mourpiane. Ça a l'air proche du SMIC lorsqu'il y a des bateaux.
Et oui, ça dit bien leurs conditions.
Et puis ça donne aussi ton point de vue aussi sur les images.
Ah ben c'est une information, je veux dire, il n'y a pas de commentaire, ce sont des faits.
Alors c'est un peu plus que des faits, alors j'en ai une autre qui est magnifique, on est dans une cuisine, il y a deux femmes, donc Pilar, d'origine andalouse, habite un 4 pièces à la Bricarde, dans le 15e arrondissement, avec son fils Anton, sa belle-fille Cécilia, ses filles Emmanuel et Bénédicte, et une amie, Dolores. Problème d'emploi et de santé.
Et puis là est un des quatre personnages de mon livre « Images de Marseille, questions de fraternité », consacré aux émigrés. Et là, on a Karim.
Alors Karim, on le voit dans sa cuisine, il a une grande cagette.
Oui.
Et il prend sa douche dans la cagette. À gauche, il y a une grande montre qui indique l'heure. Il y a une petite penderie où dépasse une chemise, un manteau. Et on le voit, donc il se savonne. Et on le voit, il a la tête relevée, donc il est en train de se savonner la nuque. Et la légende...
Il n'y a pas que ça dans l'image. Il y a sa ceinture noire.
Ah, il y a la ceinture noire, il y a des
et des skis.
Oui.
Alors, elle a fait beaucoup parler, cette image, parce qu'on disait, oh, c'est une photo misérabiliste, pauvreté, enfin, vraiment, c'est dégueulasse. Et j'ai réagi en disant, regardez-la bien. On montre un homme en train de se laver dans une cagette, oui. Enfin, une cagette, pour moi, c'est plus petit. Bon, enfin, peu importe. Il se nettoie, donc il est propre. Et en matière de pauvreté, on voit qu'il fait du ski et que, bon, il passe pas son temps à se droguer. Il est ceinture noire de judo. Bon, donc, on voit là aussi... c'est une photo documentaire parce qu'elle est riche d'informations et de complexité en même temps. Voilà. Donc, c'était Karim, un des quatre personnages de ce même bouquin dont je viens de parler, « Images de Marseille, question de fraternité, édition alternative ».
Alors la légende, c'est « Karim habite la Lorette, dans le 16e arrondissement, près de l'autoroute de Fos, où sont installés dans les années 60 les ouvriers kabyles des Tuileries de Marseille.
Voilà.
Il revend des cagettes qu'il récupère dans les supermarchés. « On a reçu la meilleure éducation », dit-il. « Ma mère a démarré avec 6 gosses et 30 francs en poche. » Alors la photo d'à côté, c'est... Est-ce que c'est la famille de Karim, enfin c'est une photo en extérieur.
Oui, oui.
Il y a un homme qui porte un enfant et il y a sa mère.
Oui, oui. Il y a sa mère au milieu.
Sa mère au milieu.
Oui. Lui, il n'est pas là, mais il y a des cousins, c'est ça.
Donc la légende, elle ne doit pas répéter exactement ce qu'elle dit l'image. C'est quoi une bonne légende ?
La légende n'est pas à confondre avec le commentaire. La légende doit donner le lieu, le sujet et la date. Après, si tu veux, j'allais dire broder dessus, tu peux faire un commentaire, toi ou ceux qui verront l'image, mais c'est pas la légende. La légende, elle donne exclusivement l'information sur ce que montre l'image, où, quand et quoi.
Ah, je voudrais te lire une phrase que j'ai trouvée dans le catalogue de ton expo « D'une rive, l'autre » de l'historien Jean-Pierre Vernant.
Oui.
Dans un livre qui s'appelle « La traversée des frontières ».
Il est question de passerelles, je crois.
Alors, je te la lis, la citation. « Pour être soi, il faut se projeter vers ce qui est étranger, se prolonger dans et par lui. Demeurer enclos dans son identité, c'est se perdre et cesser d'être. On se connaît, on se construit par le contact, l'échange et le commerce avec l'autre. Entre les rives du même et de l'autre, l'homme est un pont. »
Rien à ajouter, tout est dit là. Enfin, je veux dire, bon, c'est difficile de faire mieux en matière d'énoncer d'une approche photographique que j'ai essayé de faire mienne.
C'est-à-dire
Jean-Pierre Vernant, oui.
La photo comme trait d'union entre les peuples, entre les individus.
Bon, Jean-Pierre Vernant est quand même un auteur célèbre. Et j'ai été content de reprendre cette citation de lui.
Et quand il dit « demeurer enclos dans son identité », c'est se perdre et cesser d'être.
Eh oui, ça veut dire si tu te refermes sur toi-même, on existe... que par les autres. Qui est-ce qui a dit « je est un autre » Quelqu'un a dit ça. Oui, parce que je veux dire, je n'ai jamais fait autre chose que photographier les autres, à l'évidence. Je me souviens pas avoir fait beaucoup d'autoportraits.
Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, on se reconnaît aussi dans le miroir des autres. Ça nous révèle aussi à nous, quand même, non ?
On se reconnaît... plus ou moins. J'avais envisagé un titre pour mon livre « Ainsi que les gens vivent », « Frères humains ». Et l'éditeur avait dit « Non, ça fait un peu trop religieux, ils vont le classer dans les libraires dans les rayons religion ».« Frères humains qui après nous vivaient », c'est de M. Rimbaud. Bon, c'était quand même un très beau poème, « Frères humains ».
C'est ça aussi, hein, quel que soit le sujet que tu photographies, cette permanence qui résiste à tous tes travaux, c'est ça, c'est ce regard humaniste et qui rend digne aussi, qui rend beau aussi les gens que tu photographies, malgré leurs conditions de vie, malgré leurs conditions de travail.
Quelquefois, on m'a dit « tu es un photographe engagé ». J'aime pas trop ce terme, je préfère dire « photographe concerné ». Au sens de l'école de photographie américaine, Concerned Photographers. C'est pas tout à fait la même chose, engagé et concerné. Engagé, c'est davantage pour une cause précise, enfin, c'est davantage proche du militantisme. Je crois que j'ai dit ce matin, moi je n'ai rien démontré ni approuvé, je donne à voir ce qui m'apparaît important de considérer dans le réel. Et le monde habité, ça suffit à m'occuper.
Mais par photographe concerné, oui.
Concerné par des sujets que je considère comme essentiels, importants, par rapport à de l'accessoire ou de l'anecdotique. Voilà, c'est le distinguo que je fais entre la photo d'illustration et la photo documentaire. La photo d'illustration, bon, elle sert souvent à aérer des textes, c'est-à-dire elle peut passer pour illustrer, c'est-à-dire garnir visuel. C'est aussi que j'aime pas, un mot que j'aime pas beaucoup. Ah, c'est un beau visuel. La photographie documentaire, ce n'est pas qu'un visuel. Elle a un poids d'information et de commentaires sur le réel. Ce n'est pas une illustration passe-partout.
Mais là, on sent ton regard, concerné, mais aussi ton regard profondément humaniste, quoi, sur les autres. C'est-à-dire, y compris...
Encore... Je comprends ce terme humaniste. Il y a un côté, comment dirais-je, j'allais dire gentillet, pas assez politique au sens... Moi, j'ai fait une note, je crois que je te l'ai passé, une photographie politique au sens étymologique du terme. C'est-à-dire, comment la cité est gérée. C'est un rapport avec... la citoyenneté, je ne renie pas le vocable d'humaniste, il est un peu mis à toutes les sauces aujourd'hui.
Oui. Je choisis un autre terme, une photo qui envisage l'autre sans le dévisager.
Ça c'est puissant ça, hein, sans le dévisager. Ouais. Oui, le dévisager, c'est violent et agressif, dévisager. On ne demande pas la permission pour dévisager. Dévisager, c'est... pour moi, c'est agressif, dévisager.
C'est défiguré.
C'est défiguré, oui. Logiquement, dévisager, c'est... Qu'est-ce que ça veut dire si on prend le Robert ? Dévisager.
Ça veut dire abîmer, dégrader aussi l'image de l'autre.
C'est un côté intrusif. C'est l'inverse de la rencontre, dévisager. Dans la rencontre... Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer d'établir une relative égalité, je dis bien relative, entre le photographe et celui ou celle ou ceux qu'il prend. Moi, je n'ai rien de commun, sinon que nous sommes des frères humains, pour reprendre le vocable que je disais, avec les nettoyeurs des tankers qu'on a vus tout à l'heure. Je ne les ai pas dévisagés, là. J'ai attendu... qu'ils acceptent, j'ai leur accord, ça se voit sur leur visage, pour les photographier. J'ai leur accord, et dans l'accord, il y a un minimum de... On a partagé un moment, quand même, voilà. J'ai partagé un moment de leur vie, mais je n'ai rien de commun avec eux dans leurs conditions, et je ne suis pas leur égal, à l'évidence. Sinon, d'être un humain comme eux. Pas comme eux, au sens littéral du terme. Mais on a les pieds sur terre, mis à part qu'eux, ils les ont plutôt dans la merde que sur un terrain sableux d'une plage. Si tu veux taper immigré, s'il te plaît.
Ouais.
ça m'évite de changer de lunettes.
Oui.
Voilà.
Voilà.
Alors, donc, ça, alors, je passe vite. Alors, tu viens, oui. Bon, ça, c'est pas à Marseille, c'est dans les jardins de Fonfon, là, à 500 mètres d'ici. Et c'est d'anciens travailleurs, c'est des Marocains ou Tunisiens qui sont maintenant en France et qui ont des jardins. Et ça, c'est un Marocain ou Tunisien, je ne sais plus, qu'est-ce qu'il y a marqué là, légende. Conseil d'un jardinier à une usagère des jardins familiaux de Fonfon. Et lui, il est migré, mais il est paysan d'origine et il apprend à une Française à jardiner. Donc, c'est pas Marseille, c'est un homme, ça. Là aussi.
Alors, pour venir
voilà, tiens, à... j'aime beaucoup cette photo.
Ça, c'est sur le quai des Belges.
On est en 2009.
2009, sur le Vieux-Port.
Voilà.
Donc, il y a au premier plan, il y a une étale de poissonniers, hein, tu me dis si je me trompe. Et au deuxième plan, il y a une jeune fille qui est en train d'acheter du poisson.
Une jeune fille immigrée.
Et alors pourquoi tu l'aimes beaucoup ça ?
Parce que elle achète du poisson, elle se fait conseiller, ou bon, il y a un échange, il y a du commerce, il y a des personnes, il y a le contexte, on voit bien qu'on est du Vieux-Port, et il y a la marchandise, il y a des poissons. Il y a deux expressions intéressantes, celle du vendeur et celle de l'hésitante de la jeune fille qui va acheter, là, elle a le billet à la main, là. Elle est vivante, cette image. C'est pour ça qu'elle me plaît. Donc, je continue la balade marseillaise. Ça aussi, c'est sympa.
Alors, lycéenne devant le lycée Saint-Exupéry,
voilà.
15e.
Bon, là encore, il y a des origines différentes, mais c'est des jeunes lycéennes qui discutent entre elles à la récré. Bon, on est en... On est en
2011.
Là, c'est sympa, ça aussi.
On est dans une épicerie et il y a un papa, là, visiblement, qui donne un verre d'eau, un gobelet en plastique à sa petite fille.
Voilà.
Qui a une couette.
Épicerie, rue du Panier. On est dans le cœur de Marseille, qui, m'a-t-il dit, a changé de cœur. Enfin, c'est les gens qui y sont, qui n'ont plus le même cœur, ouais. Puisque maintenant, c'est un quartier bobo. Alors que, bon, en 2013, ça m'étonnerait qu'on puisse la refaire aujourd'hui, cette image. Voilà, on est toujours au panier, là. Tu vois ?
Tu sais quoi ? Je vais changer de terme. C'est pas plutôt un regard humaniste qu'un regard tendre. C'est-à-dire qu'y compris quand tu photographies les gens...
Ah, je préfère tendre qu'humaniste, oui.
Ouais, et y compris quand tu photographies des gens qui sont dans des conditions pas... favorable, pas envieuse.
Oui.
Ils sont toujours beaux, ils sont toujours grands, ils sont toujours pleins de vie.
Un terme qui m'importe beaucoup, c'est ils sont, j'essaye de le montrer, dans leur dignité. Les nettoyeurs des tankers qui étaient tout mâchurés de déchets pétroliers, ils sourient et ils font un portrait de groupe, mais ils sont tous très dignes. Malgré leurs conditions de sous-prolétaires. Les sous-prolétaires, ils existent aujourd'hui, les prolétaires. Aujourd'hui, le vrai prolétariat, ce sont eux. On est toujours dans le panier, là. Ah tiens, ben voilà, un personnage que j'ai eu beaucoup de plaisir à photographier, Amar Bouabdallah. Il a une histoire, j'ai le son sur lui. C'est lui. Et il faisait... des dessins des différents postes de travail qu'il a occupés, à Fos, etc., et qui sont d'une précision documentaire extraordinaire.
Alors il dit que c'est son poste de travail à l'usine sidérurgique,
voilà.
ArcelorMittal.
Voilà. Là, il est en train, Amar Bouabdallah, avec un dessin qu'il a fait, et il en a fait, il a tout un cahier, et qui sont d'une précision... extraordinaire. Bon.
Et te regarde face caméra,
ah,
te
oui,
montre
oui,
son
oui.
dessin,
oui, 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 oui.
Avec une certaine fierté.
Ah oui, oui, tout à fait. Tout
et
à
alors
fait.
Il a une tête hein, quand même, ce monsieur Abdallah, parce qu'il a, et donc il est en partie chauve. En tout cas, le front est dégarni, il a des lunettes teinté.
Il a beaucoup vécu.
Et il a des bacchantes, des moustaches qui lui descendent.
sous le menton.
Comme Cavana. Il a une sacrée gueule.
C'est un espace où mangeait des... Où est-ce qu'on est là? On n'est pas à Marseille, on est à...
Non, on est dans le Vaucluse.
Ville, Pernes-les-Fontaines, oui. La légende, abri de travail...
Alors, abri de travailleurs immigrés marocains sans papier, voilà. Dans le bois des Bussonades.
Et c'est un reliquat de leur repas, ça.
Donc on voit des cendres, un amas de cendres. Ouais.
Bon, ben voilà, c'est un reste. Mais quelquefois, les restes en disent plus que...
Voilà. Magnifique. Là, on est dans un foyer de travailleurs immigrés.
Voilà.
Travailleurs saisonniers agricoles dans le Gard. Et donc, c'est une chambre qui est occupée par deux lits superposés.
Quatre.
Alors qu'il y a quatre lits, mais deux lits superposés.
Oui, c'est ça.
Et puis, alors, il y a une télévision qui trône au milieu. Et l'un des deux hommes a le bras accoudé sur la télévision. Et les deux te regardent face caméra. Et derrière aussi, il y a des photos qui sont accrochées au mur.
Et là, on est en 1981.
Et donc, comment tu arrives là?
En l'occurrence, avec eux, je sais plus, je me souviens plus.
Et on dirait quasiment Elvis Presley, là, celui qui est à gauche. Là. C'est-à-dire qu'il se met en scène, lui aussi, devant... Toi, tu le mets en scène, tu choisis le cadre. Mais lui,
oui, mais enfin, je ne l'ai pas fait poser là. Hein,
non, mais c'est lui qui choisit de se mettre en scène, poser tel
oui,
que...
Oui, il se donne à voir. J'aime bien cette expression.
C'est pas pour sauver le monde, tant pis pour celui qui jeûne, celui qui gronde. Il s'en va chercher son pain, flague avec quelques copains. S'il va faire pisser son chien, ce n'est pas sur vos tombes. Il n'est pas celui qui crache au nez du monde. S'il peste, c'est dans son jardin, contre les taux et les taupins. C'est un gars ordinaire. On est tant de gens comme ça, sans orgueil et sans éclat. Ils le savent bien les autres, qu'ils ne seraient pas des grands hommes s'il n'y avait pas ce que nous sommes, que des gens ordinaires, tant de gens ordinaires. Il s'en va, il fait ses heures et puis se taille, il tient un mois à son patron qu'à sa maison. Pourtant ces soirées sont banales, on en parle pendant le journal. Il va pas risquer sa vie à Kaboul ou sur l'Everest. Il héberge pas les réfugiés et puis tout le reste. Mais quelques dons dans ses dépenses pour se donner bonne conscience. Comme un gars ordinaire. Mais on est tant de gens comme ça, sans orgueil et sans éclat. Ils le savent bien les autres. Ils ne seraient pas des grands hommes s'il n'y avait pas ce que nous sommes, que des gens ordinaires, tant de gens ordinaires. Puis un jour il se surprend, ému par quelque chose, à être moins frileux qu'avant, pour une cause pour laquelle il va se donner sans un peu moins compter. Mais là-dessus le temps va passer, et la cause elle va finir, et à plus de naturel, il va revenir. C'est comme ça qu'il va vieillir, sur sa tombe on ne va pas inscrire. C'était un gars ordinaire, car en étant de gens comme ça, sans orgueil et sans éclat, ils le savent bien les autres. Ils ne seraient pas des grands hommes hein, s'il n'y avait pas ce que nous sommes, que des gens ordinaires. Oui, on est tant de gens comme ça, sans orgueil et sans éclat. Ils le savent bien les autres. Ils ne seraient pas des grands hommes hein, s'il n'y avait pas ce que nous sommes, que des gens ordinaires. Tant de gens ordinaires.
Okay. Marcel, qu'est-ce que tu disais à propos de la curiosité de Jacques?
Je disais que Jacques est très curieux. Il fait de la photo constamment. Il part, il voit quelque chose. Et dans sa tête, il y a une photo déjà. Tout le temps. Je le vois, son comportement, sa façon de regarder.
C'est-à-dire son comportement?
Eh bien, quand il regarde quelque chose, il ne regarde pas comme ça en passant. Hein. On sent qu'il a déjà fait clic quand il regarde quelque chose. Si vraiment, il regarde. Ah oui, non, mais ça, c'est tout le temps. Je le vois bien quand on est ensemble dehors. Même chose avec les gens. Ah oui.
Et alors, en même temps, il ne suffit pas de regarder pour voir les écrits, parce que tu as pas mal participé avec des groupes de recherche en sciences humaines. Et tu animais un atelier court à l'université qui s'appelait « Apprendre à voir ». Qu'est-ce que ça veut dire?
Et j'ai un texte, je crois que je l'ai donné, « Apprendre à voir ensemble ». C'est encore autre chose, ça. Apprendre à voir, oui, c'est ce que j'essayais d'inculquer à mes étudiants. Et j'avais un outil essentiel, c'était la planche de contact. C'est-à-dire... si on utilise le petit format 24-36, il y a 36 vues qui sont ensuite imprimées sur une planche contact où il y a 36 vues, et je les incitais à décortiquer leur vision, c'est-à-dire à choisir les meilleures images, en éliminant d'abord celles qui étaient mauvaises techniquement, et ensuite de chercher... les images les plus intéressantes, les cerner d'un crayon rouge gras qu'on peut effacer. Et maintenant, avec le numérique, je parle comme un antédiluvien, là, dinosaure de première. Mais c'était quand même, au niveau pédagogique, beaucoup plus intéressant que le numérique. Le numérique, ça va trop vite, puis on efface, c'est trop furtif, trop... sinon intrusif aussi. La photographie, moyen d'expression et mode de rencontre. Ça m'est souvent arrivé, grâce à l'appareil photo, de discuter avec des gens que je n'aurais peut-être pas abordé autrement. C'est un vecteur, c'est une incitation à la rencontre.
Un trait d'union.
Quand on s'intéresse aux gens, bien sûr, si tu fais de la photographie plasticienne, c'est pas le même exercice, avec le même outil éventuellement.
Je reviens là sur apprendre à voir. Comment on apprend à voir? Donc on regarde les planches contact.
Et on essaie de repérer, de mettre en avant les photographies les plus intéressantes. Et je les incitais à faire. Ça a été. J'ai même sorti tout à l'heure un petit. Collection Wittenberger, dans laquelle il y a ce que j'appelle les séries sujets. Une série, c'est une suite d'images qui est censée raconter quelque chose, plus que ne peut le faire une image unique. Hein.
Mais ça, c'est le cinéma, alors. Une série d'images, contrairement à l'instantané de la photo.
De mon temps, je peux le dire, quand on a bientôt 90 ans, il y avait eu les outils qu'il y a aujourd'hui, c'est-à-dire des appareils réflexes, que ce soit Nikon ou Canon, je ne fais pas de la publicité pour l'un ou pour l'autre, qui permettent d'enregistrer l'image et le son, l'image fixe et animée. Je ne sais pas si j'aurais pas été tenté par le cinéma documentaire, qui a toujours été pour moi une très grande école. Que ce soit Jean-Yves Sivens, pour ne citer que lui, je veux dire, la série, pour revenir à ce vocable, je dis série-sujet, c'est-à-dire traiter un sujet par une série, c'est-à-dire dans une série, il y a plusieurs images, et certaines font office de verbe dans une phrase, d'autres d'adjectifs, d'autres éventuellement de virgule, mais l'ensemble en dit plus, raconte mieux l'histoire que ne pourrait le faire une image unique.
Alors ça, c'est une fois que la photo est prise.
Oui.
On regarde la planche contact.
Oui.
On sélectionne. Mais au moment de la prise de vue, c'est quoi? Comment on apprend à voir?
La prise de vue, là on revient aussi à à la notion de temps, on ne se contente pas d'en faire une et de courir ensuite ailleurs. On reste, on essaye, quand le sujet le permet, on essaye de creuser, de rester un peu de temps, parfois 2 minutes, parfois 3 heures, parfois 10 ans. En revenant, des sujets comme Sarcelles ou Fosse, bon, j'y suis revenu 15 ans après, pour creuser, pour développer, pour montrer l'évolution. Ce qui définit le documentaire, c'est pas à toi que je le dirais, c'est quand même le temps, la durée qui permet de développer divers aspects d'un phénomène.
Oui, donc c'est que s'il rejoint aussi la photographie documentaire, le cinéma documentaire, c'est Robert Flaherty, dont on dit qu'il est l'inventeur du
oui,
genre,
oui,
qui disait, moi, pour faire un film, j'ai besoin de deux choses, oui. De la pellicule et du temps.
Voilà. Non, mais bon, je pense qu'aucun documentariste ne dira le contraire.
Mais le temps, ça permet quoi
Permet...
Qu'est-ce qui différencie une photo talentueuse faite par un photographe qui va rester 2 minutes d'un photographe qui va rester pendant des semaines?
Ah ben, parfois en 2 minutes, tu peux faire un chef-d'œuvre, mais enfin, c'est pas garanti. Même en restant 10 ans, c'est pas dit que tu feras des chefs-d'œuvre. Mais le but, c'est pas de faire un chef-d'œuvre, pour moi. C'est de raconter des histoires, d'exprimer des choses, et encore une fois, de rencontrer des gens. Et quand j'ai dit que j'avais fait un texte, une approche pédagogique qui s'appelle « Apprendre à voir ensemble », c'est, ce que j'ai commencé à exprimer dans un livre qui s'appelle « La photographie, moyen d'expression, instrument de démocratie », qui est paru en 1965, dans lequel j'ai exposé une méthodologie qui s'appelait « L'information participation photographique », c'est-à-dire construire un sujet d'intérêt général avec la participation de gens, de groupes directement concernés par ce sujet. Et ça, de l'élaboration des hypothèses, de la réalisation du sujet, dans l'investigation, et ensuite dans le montage, c'est-à-dire le choix des éléments, des images ou des sons, ou les deux, qui raconteront le mieux l'histoire. Donc, ça évoque encore un terme que j'ai utilisé récemment comme titre d'une exposition qui est parue, qui a été présentée à Aix et qui a reçu 15 500 visiteurs en 2023, qui s'intitulait « Des images en partage ». Donc le partage, pour moi, c'est dans cette perspective, ça peut être dès la prise de vue, quand je dirais, les conditions le permettent. C'est-à-dire que ça passe par la parole, par un échange, par ce qui permet de pas seulement d'appuyer sur le déclencheur, mais de s'arrêter pour établir un dialogue. Est-ce que j'ai répondu à ta question ?
Oui, t'as très bien répondu. Tu cites un Elifort qui dit « savoir voir et savoir pour voir ».« Savoir voir et savoir pour voir ». C'est-à-dire que, en fait, il y a l'idée que le photographe, c'est un flâneur,
oui,
qui se promène, ça, comme ça, au gré du vent.
Flâner, ça veut pas dire être innocent. Enfin, être dépourvu d'un minimum de connaissances. Quand j'ai travaillé sur les grands ensembles, sur Sarcelles, ou ce phénomène de la banlieue, oui, j'avais commencé à le dire tout à l'heure, dans tous mes voyages, grâce à des associations, surtout une association qui s'appelle l'AGIBAT, l'Association des journalistes de l'habitat et de l'architecture, qui m'a permis de voyager dans des conditions financières exceptionnelles, où je suis allé vraiment un peu partout, dans des grandes villes. Je me suis toujours astreint à chaque fois à aller voir les banlieues, voir la banlieue, pas simplement me contenter du voyage organisé, qui était remarquablement organisé d'ailleurs, mais faire un pas de côté pour aller voir autour. Et donc, pour rencontrer là, disons, là où vivait une grande partie de la population de ces villes. Quel était notre thème là ?
C'était, est-ce qu'il faut s'imprégner du sujet, s'assurer d'avoir la complicité des gens pour pouvoir saisir des choses?
Quand on a la participation, quand on arrive à un échange, à un dialogue, sinon à un partage, c'est-à-dire le partage, ça peut être le partage de la parole, mais ça peut l'être aussi lors de la diffusion des images pour... puisque bon, je me suis souvent impliqué à susciter le débat par des expositions que l'on visite non pas d'une manière passive, là on pourrait aussi beaucoup innover dans les expositions plutôt que de mettre des images qu'on sacralise avec un beau cadre. Quelquefois on se demande si c'est pas le cadre le plus intéressant ou performant plutôt que ce qu'il y a au milieu. Mais là, je dis que le partage, ça peut exister à tous les stades de l'expression, du choix d'un sujet, dans sa réalisation, dans sa diffusion. Bon, et c'est ça qui m'intéresse, c'est-à-dire de susciter un débat public pour des sujets qui le nécessitent. Et Dieu sait si ça manque pas, de plus en plus.
Alors, tu rejoins... Henri Cartier-Bresson.
Alors, il est fort, oui, pas savoir pour voir. Oui. Voir pour savoir.
Savoir voir et savoir pour voir.
Et il vaut mieux être un tantinet documenté. Donc, j'ai lu des ouvrages théoriques sur les grands ensembles, de même que sur l'environnement, la pollution, pour traiter le fosse et de mer. Donc, il ne faut pas arriver totalement innocent, ignare, sur le sujet que l'on veut traiter, surtout si on veut faire un documentaire digne de ce nom.
Tu dis aussi qu'il convient de ne pas accréditer l'idée qu'un photographe travaillerait surtout selon son intuition ou son humeur. C'est-à-dire que l'intuition...
Oui, oui, j'ai écrit ça, oui. Oui, surtout. Attends, tu peux répéter la phrase?
Il y a Cartier-Bresson qui dit « Photographier n'est rien sans une participation de l'intuition, de la sensibilité et de la connaissance. » Mais toi, tu rajoutes qu'il convient de ne pas accréditer l'idée qu'un photographe travaillerait surtout selon son intuition ou son humeur.
Son humeur, oui. Oui, là, on rejoint l'utilité du savoir. Bon, non pas que je néglige l'intuition... Et l'humeur, bon, l'humeur, qu'on le veuille ou non, on a tous une. Bon, il y a des jours, il y a des jours avec et des jours sans. Je veux dire, bon, il y a des jours où j'aurais été, où j'ai été incapable de faire la moindre photographie, ni l'envie d'en faire d'ailleurs. Mais, bon, pour moi, encore une fois, l'essentiel, c'est l'importance. Et j'ai toujours en tête la description de la photographie documentaire que j'ai dû répéter 1000 fois aux étudiants, c'était celle qu'Ardone Life, description d'un sujet issu du monde réel par un photographe dont l'intention est de communiquer quelque chose d'important, de faire un commentaire qui soit compris par le destinataire. Il y a tout là. Il y a l'intention, c'est-à-dire la subjectivité du photographe, donc son intention, sa volonté, sa subjectivité, donc de faire un commentaire qui soit compris par le destinataire. Bon, ben, pour qu'il soit compris, il faut quand même qu'il recèle les ingrédients d'une connaissance à son propos, et que cette image ait la qualité, là rejoint l'esthétique étant comprise pour moi comme une nécessité pour la diffusion, c'est-à-dire pour être compris. C'est pas un luxe, l'esthétique.
Parce que ça passe quand même d'abord, pour un spectateur, ça passe d'abord par l'émotion avant d'être...
L'émotion, oui, l'émotion, ça je l'écris. Non, ça, c'est la perception. Je crois que en physiologie, enfin, la perception, l'émotion, comment dirais-je, sont divers stades de la captation de l'image par l'esprit. Je ne suis pas scientifique pour décomposer les différentes phases de ce processus, mais il existe.
Et ce qui est intéressant, c'est que tu dis aussi que le rapport de la photo est un rapport d'intersubjectivité. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement la subjectivité du photographe, c'est celle du photographe, c'est celle aussi de celui qui est photographié, et c'est celle de celui ou de celle qui regarde
qui reçoit
la photo.
L'image.
Et qui peut interpréter la photo de
bien
manière,
sûr,
de mille
bien
manières.
Bien sûr, oui. Encore faut-il que, la, que tu ne se situes pas comme photographe, disons, démonstratif ou militant, en prétendant délivrer la vérité ou ta vérité. Je veux dire, moi, ce qui m'importe, c'est d'essayer de faire des photographies qui peuvent être chargées, mais ouvertes. Ouvertes, c'est-à-dire qui permettent, sinon qui suscitent le dialogue et le partage. Donc,
le partage des regards, en fait.
Le partage des regards,
des sensibilités.
Oui, tout à fait.
Alors justement, si c'est de l'ordre de, à la fois du savoir et de la sensibilité, la place quand même de l'esthétique, une place importante pour ce que tu viens de dire, sur l'émotion de cela. Et tu dis, tu en as fait l'expérience toi-même, après Keystone, tu t'es dit que tu avais trop tendance à trop investir dans le sujet et le public directement intéressé, et en minimisant le photographe que tu étais dans le commentaire et la photographie dans sa forme, au détriment sans doute d'une possibilité de communication plus large et plus durable vers d'autres publics. Alors là-dedans, il y a aussi plein de choses, mais le rapport entre le sujet, l'histoire qu'on raconte, mais la part esthétique, est-ce qu'il peut y avoir un photographe qui soit très bien documenté, mais qui en oublie la part du sensible, la part de l'intuition, la part de l'instinct, la part de l'animalité qu'il y a dans la prise de vue? Est-ce qu'une photo, une photo est d'abord dans l'ordre de... Elle n'est pas dans l'explication du monde. Elle est dans un constat d'un fragment du réel.
Ah, une photo, surtout si on n'en fait qu'une, ça ne peut être qu'un fragment. Mais de toute façon, on n'est que fragmentaire, même si on fait 1000 photos sur un sujet. Mais ce qui fait sens, pour moi, c'est le montage. Bon, et c'est pas à toi que je l'apprendrai. Je veux dire, ça commence par la série, c'est-à-dire de ne pas faire qu'une prise de vue, mais associer des images, c'est ce qui fait sens. Je ne pense pas dévier de la question, là.
Non, mais ça fait la deuxième fois quand même que tu parles de la photo.
Oui.
Avec les méthodes du cinéma, tu viens de dire, c'est du montage. Tu as dit avant, c'est des séries, accumulation d'images. Et là, tu dis, c'est d'abord du montage. Ça, c'est l'essence du cinéma, c'est le montage. Ce qui n'est pas le cas de la photo.
C'est pas le cas, mais ça peut être le cas. Et c'est pas d'abord le montage, je veux dire, mais quand je fais... J'ai fait un documentaire cinéma, mais qui est basé peut-être à 80% sur des photographies, avec le concours d'un ami, Michel Jouve, qui a fait la vidéo, mais il s'agit bien d'un montage. Donc pour raconter l'histoire de Fausse, bon, ou l'histoire de... Si je voulais faire, et j'aurais de quoi faire, un livre sur Sarcelles, et je serais bien obligé de faire un montage pour raconter l'histoire. Donc un montage, c'est bien l'association d'images, animées ou pas, qui raconte l'histoire. Donc j'ai une étagère là, avec mes divers bouquins, que ce soit un livre sur l'URSS, ou image de Marseille, question de fraternité sur Marseille. J'ai travaillé auprès d'immigrés, de divers personnages, et raconter leur histoire passe à un montage d'images sur leur vie quotidienne et encore.
Et dans le travail aussi.
Et dans le travail, oui, bien sûr. Dans la vie quotidienne, il y a le travail, au demeurant, qu'on le veuille ou non.
Alors, comment tu t'y prends? Quel est ton mode opératoire D'abord, qu'est-ce qui fait que tu vas t'intéresser à un univers, à une petite communauté à... qu'est-ce qui déclenche, qui est le déclic, qui déclenche le désir, l'envie d'aller faire un travail de série photographique, documentaire?
Je n'ai pas de réponse standard. Je veux dire, il me suffit. Et si je regarde la liste de ma collection là, de séries sujets, la plus ancienne, c'est en 1956, La volaille de Bresse. Total, 4. Là, il y en a 4. Mais ces 4-là, elles en disent plus que s'il n'y en avait qu'une. Bon, je passe exposition universelle à Bruxelles. Là, il y en a 11. C'était en 58.
Bon. C'est une pile de au moins il y a 40 pages.
Parce que j'y suis allé avec mes parents. Pourquoi j'ai fait des photos? Il y en a une autre, là, Peuple de Gênes, été 59. Total 7. Construction du paquebot France. On est à Saint-Nazaire en 61. Oh, c'était extraordinaire. Je veux dire, c'était dans ma vie professionnelle, j'ai beaucoup fait de photos de chantier. J'ai photographié beaucoup de chantiers, des petits et des très grands. Bon, Foss était un des plus grands que j'ai fait. Bon, mais Saint-Nazaire, mais j'y suis pas resté longtemps pourtant. Hein. C'est Moscou. En Moscou, j'y suis allé plusieurs fois. C'était en 2008, ça. J'y suis allé deux fois. J'y suis allé du temps de l'URSS et après la Russie. Et j'ai photographié, par exemple, là, la même place, comment elle s'appelait cette place, dans un centre, le plus grand magasin de Moscou, il y avait une place centrale. J'y suis allé en 1994, de mémoire, et en 2008. Et il y avait une fontaine sur une place, et en 94, il y avait des gens vraiment habillés comme des prolos de l'époque, et tout autour, au lieu de magasins populaires, il y avait Armani, Dior, etc. Donc, là encore, on retrouve l'utilité de la durée ou du temps pour montrer à deux époques le changement.
2008, donc ça, c'est le dernier?
Non, ce n'est pas le dernier, c'est le dernier que j'ai... Le dernier sujet, peut-être, que j'ai traité, c'est Nov au temps du coronavirus.
À Nov, donc ici, le village.
Ah, c'est ici. Pourquoi je l'ai fait? C'est parce que, bon, ça m'a paru, bon, phénomène, c'est moins qu'on puisse dire, important. Et j'ai eu l'idée de le traiter à une échelle humaine, proche, locale, pour, sinon en faire le tour, pour en montrer divers aspects. On pourra l'avoir, d'ailleurs.
Et alors, pendant le confinement, les gens, ils étaient chez eux. Comment t'as fait pour aller à la rencontre de gens?
Ah ben, ils étaient chez eux. Bon, enfin, ils allaient aussi, il y avait le masque pour faire les courses, etc. Je veux dire, on pourra les voir. Hein. Et j'ai fait la rentrée scolaire avec... il y avait, je me souviens, par terre, il y avait un mètre de distance entre les élèves. Enfin bon... Donc, voilà l'exemple du choix d'un sujet récent.
Alors, comment tu t'y prends? Donc, tu t'imprègnes du sujet. Donc, tu as dit tout à l'heure que tu lisais des choses pour ne pas être un innocent aux mains pleines. Et après, tu travailles quasiment exclusivement au grand angle?
Ah non, pas exclusivement. Essentiellement, oui, oui. Oui, à 80%, oui, oui, au 35 mm, oui, tout à fait. Bon, parce que ça permet d'être proche et en même temps assez large pour avoir un minimum de contexte. Hein. Contexte, c'était également un mot que j'ai beaucoup utilisé avec les étudiants, puisque j'étais responsable d'un atelier de photographie documentaire pendant... 2 ans avec eux en licence d'art plastique, et je leur disais souvent l'intérêt du contexte, c'est-à-dire qui impliquait de faire plusieurs images, des séries, et là on revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, pour composer un... Et je leur disais, oui, je leur donnais, choisissez un sujet de votre choix avec une hypothèse de travail et...
L'hypothèse du travail, c'est l'intuition, en fait.
Une intuition, oui, une hypothèse de travail. Et aller voir des visus, ce qu'il en est dans le réel. Et de faire des images et ensuite de construire une série. Et, d'apporter leurs planches de contact que j'analysais avec eux. Donc, tout ça, c'est dans la même logique, dans la même méthodologie.
Et donc, 35 mm
Et oui, c'est-à-dire le 24-36, le Leica, pour ne pas leur faire de la pub, ils n'en ont pas besoin. J'ai fait du relais aussi, du 6-6, mais dans l'ensemble de ma collection, c'est quand même le 24-36 qui domine.
Alors 24-36, tu disais, parce que ça mettait l'insistance à la fois sur le sujet filmé, mais aussi sur son contexte. Oui. Qui fournissait des éléments d'information sur la personne. Et tu dis, donc, principalement avec un Leica, qui est un peu la Rolls sur la photo.
Et aussi, j'ai utilisé beaucoup des réflexes, surtout parce qu'il y a divers objectifs. Mais le Leica a toujours été mon outil préféré pour faire de la photographie que j'appelle de proximité humaine. Alors que les réflexes Nikon ou Canon, je les ai surtout appréciés pour la photographie à caractère industriel ou d'architecture. Dans les deux cas, c'est du 24-36.
Mais qu'est-ce qu'apporte le Leica par rapport au Nikon quand tu photographies
J'allais dire une sensualité. Il est discret, un déclenchement très doux, et voilà, je veux dire, c'est un petit bijou. Oui, maintenant, quand même, j'ai apprécié des petits outils numériques, là, et même le portable, je veux dire, le portable, maintenant, c'est une discrétion, on croit que tu téléphones et tu fais une photo. La miniaturisation des appareils, je veux dire, les technologies actuelles permettent des choses, évidemment, qu'on ne pouvait pas faire dans les années 50, c'est sûr.
Et d'un point de vue pratique, c'est moins lourd, quand même.
Bien sûr, oh là là. Non, mais ça me renvoie au kiné que je vais voir une fois par semaine, parce que fut un temps où je me trimballais avec... deux appareils, un pour le noir et blanc, un pour la couleur, et des magnétophones UR ou Grundig qui pesaient. Ça pesait lourd, et mes vertèbres en ont un mauvais souvenir.
Alors, le Leica, c'était pour le noir et blanc et la couleur. T'avais quoi comme boîtier dans ton sac? Noir et blanc, Leica.
Oui. Mais j'ai fait aussi j'ai fait peu de couleurs jusqu'à ce que les émulsions aient gagné en sensibilité. Mais ça remonte, je ne sais plus à quelles années, mais enfin, je veux dire, j'ai fait surtout du noir et blanc qui permettait de travailler en available light, comme on disait, en lumière ambiante. Parce que j'ai toujours été hostile au flash qui, d'ailleurs, est intrusif et modifie le réel et dérange. C'est le noir et blanc. On a eu des émulsions chez Kodak qui permettent de travailler à 3200 ASA. C'était formidable.
Et donc de travailler en intérieur, en basse lumière.
Oui, dans des conditions de lumière très, très défavorables, donc là, en toute discrétion.
Et tu n'as jamais mis de lumière additionnelle? Alors, pas de flash, mais pas non plus de parapluie?
Non, puis comme je n'ai jamais fait de studio, donc... Quand j'étais obligé d'en faire à l'agence, là, il fallait se trimballer, oui, avec... Il pesait aussi Technil Humaine et autres sur Braun, c'était des marques de l'époque. Et avant, il y avait des ampoules magnésium. Là encore... Je veux dire, aujourd'hui, la technique n'est plus une entrave. n'importe qui peut faire des photographies, ça ne veut pas dire que chacun, tout un chacun, peut faire de bonnes photographies. C'est, là encore, c'est comme disait Cathy Bresson, il faut mettre sur la même ligne de mire l'œil, la tête et le cœur. C'est une belle phrase.
Ah, c'est beau.
Si la photo est bonne, juste en deuxième colonne, y a le voyou du jour qui a une petite gueule d'amour. Dans la rubrique du vice, y a l'assassin de service qui n'a pas du tout l'air méchant, qui a plutôt l'œil intéressant. Coupable ou non coupable, s'il doit se mettre à table, que j'aimerais qu'il vienne pour se mettre la mienne. Si la photo est bonne, il est bien de sa personne, n'a pas plus l'air d'un assassin que le fils de mon voisin. Ce gibier de potence, pas sorti de l'enfance, va faire sa dernière prière pour avoir trop aimé sa mère. Bref, on va pendre un malheureux qui avait le cœur trop généreux. Moi qui suis femme de président, j'en ai pas moins de cœur pour autant. De voir tomber des têtes, à la fin ça m'embête. Et mon mari, le président, qui m'aime bien, qui m'aime tant, quand j'ai le cœur qui flanche, tripote la balance. Si la photo est bonne, qu'on m'amène ce jeune homme, ce fils de rien, ce tout est pire, cette crapule au tout sourire, ce grand gars au cœur tendre qu'on n'a pas su comprendre. Je sens que je vais le conduire sur le chemin du repentir pour l'avenir à la France, contre la délinquance. C'est bon, je fais le premier geste, que la justice fasse le reste, surtout qu'il soit fidèle, surtout je vous rappelle, à l'image de son portrait, qu'il se ressemble trait pour trait. C'est mon ultime condition pour lui accorder mon pardon, qu'on m'amène ce jeune homme, si la photo est bonne, si la photo est bonne, si la photo est bonne.
Alors, une question qui me brûle les lèvres, c'est 70 ans de photos, 400 000 clichés. Et quand tu regardes toutes ces photos, est-ce que tu vois une évolution dans ton regard ?
D'abord, le chiffre 400 000, je veux dire, c'est, je n'ai pas compté, mais enfin bon, ça doit même dépasser ça. Je veux dire, elles ne sont pas toutes... j'ai quand même tout donné aux archives départementales, mais disons que la sélection que je continue à constituer, c'est à la ACEF, Société des auteurs des arts visuels et d'images fixes. Là, on est autour de 15 000. Et celles-ci sont indexées, etc. Donc, ça me laisse perplexe, ta question. D'abord, j'en fais de moins en moins. La série sur Nov au temps du coronavirus, je crois que c'est le dernier sujet que j'ai abordé, donc c'est 2020. Dans ma manière de traiter les sujets ou dans le choix des sujets ?
Dans la manière de les traiter, c'est-à-dire dans l'évolution de ton regard.
Il me semble pas. Il faudrait analyser mes productions au fil des décennies, si tu veux, mais il faudrait un regard autre que le mien pour en juger. Peut-être est-ce que le numérique a eu une incidence à ce propos ? Du temps de l'argentique, tu faisais plus attention parce que économiquement parlant, je veux dire, ça coûtait très cher, quoi. Maintenant, on est bon. Les cartes mémoire, bon, je veux dire, on a métier, on peut les réutiliser, donc mais c'est pas pourtant que je mitraille, c'est pas pour autant que je mitraille, au sens... alors je disais aux étudiants, mitraillage, c'est prendre tout et n'importe quoi. Et ce que je vous incite à faire, c'est de saturer un sujet, ce qui n'est pas la même chose. Hein, c'est-à-dire de creuser, d'approfondir. Je crois que j'ai toujours aimé beaucoup enseigner et faire de la pédagogie. Mais bon, je te dis, je ne peux pas moi, le distinguer s'il y a... si mon regard a évolué.
Et en même temps, alors, qu'est-ce qui a changé dans le métier de photographe ?
Oh ! Depuis quand ?
Depuis que tu as commencé, c'est-à-dire dans les années 60. Est-ce que c'est le même métier ?
Ce qui a changé, je veux dire, ce qui me vient d'emblée à l'esprit, c'est dans les possibilités de commandes et de diffusion. Ça a été la concentration des agences. D'une part, et bon, il y a Getty Images, il y a deux ou trois qui dominent le marché mondial. Il faut passer par ces agences pour diffuser, sauf appartenir à un collectif. Ça a été, mais ça remonte pas. La concentration des agences est antérieure à la création des collectifs. Moi, j'ai appartenu, ou j'appartiens encore, je dirais. Ils me disent que je suis un peu leur parrain, pas au sens mafieux du terme, à un collectif Argos, qui est axé sur, disons, l'écologie politique. Mais ce qui a changé dans le métier du photographe, bon, ça c'est en matière de production et de diffusion. Mais, disons, ce qui a changé depuis les années 50-60, c'est quand même l'évolution technologique, l'amélioration des émulsions pour le noir et blanc, pour la couleur également, donc, la haute sensibilité pour la couleur également, la profusion des appareils, le choix, j'allais dire l'arrivée des Japonais, ils sont là depuis un moment, mais je veux dire, avant, on disait que le Japon, c'était pas bon ce qu'ils faisaient, mais ce qui est maintenant archi faux, je veux dire, c'est un matériel de très grande qualité, quoi. Bon, on m'a dit récemment, j'ai des lunettes, là, les verres, c'est des Nikon, fabriquées en France, paraît-il. Donc, je veux dire, ils sont très, très performants. Des optiques de très haute qualité, donc, il y a eu un progrès, le numérique aussi, je veux dire, apporte des possibilités sans doute qu'on n'avait pas du tout de l'argentique.
Et la place de la photographie documentaire ?
J'allais dire, non pas sous forme de boutade, mais je veux dire, elle était constituée, la place de la photographie documentaire. Je veux dire, il n'y a pas la place dans le marché, il n'y a pas d'institution publique nationale de la photographie. Je veux dire, il n'y a pas de conservatoire. Il faut archiver soi-même ou alors se vendre à ces firmes comme Getty. Et la photographie documentaire que je fais ou d'autres que font, on n'est pas très nombreux d'ailleurs parce qu'on peut difficilement en vivre. C'est ça la question. Il n'y a pas de support de diffusion. Ce que demandait encore aujourd'hui la presse, c'est la photo d'illustration, c'est-à-dire passe-partout. Je pense que le cinéma doit rencontrer les mêmes difficultés. La photographie documentaire est une photographie qui dérange. Donc qui aime être dérangé ? C'est pas le capital.
Mais tu dirais que c'est plus facile aujourd'hui ou c'était plus facile quand tu
commençais ? Je pense pas que ce soit plus facile aujourd'hui. Non. Je veux dire, bon, je suis plus dans le coup. Hein. Les jeunes générations ont intérêt à s'associer, hein, je veux dire, à faire ou à faire de l'image et du son, ou à se regrouper, ce qu'on fait des collectifs. Rester isolé, je crois que c'est de plus en plus difficile.
Tu disais l'autre fois, en fait, l'essentiel de mon métier, c'est de chercher du travail.
Oui, c'est les deux tiers du temps, mon vrai travail, c'était d'en chercher. Et quand j'ai une commande, j'ai l'impression d'être en vacances, quoi. Seul, très bon souvenir que j'ai, c'est d'avoir travaillé avec le mouvement HLM, par exemple. J'ai travaillé beaucoup sur ce thème de l'habitat, et là, il y a eu correspondance entre mon intérêt pour le thème de l'habitat, que je traitais en documentaire, étant indépendant, et aussi cette commande du mouvement HLM qui m'a permis d'avoir des commandes. On a fait un livret qui s'appelle « Les nouveaux HLM ». Avoir des commandes documentaires, c'est pas la presse qui le permet, parce qu'elle ne te permet pas d'avoir le temps, de la durée, de faire du documentaire. Seulement du news de l'actualité. Fait divers ou autre.
Donc si c'est pas la presse, c'est qui va financer c'est...
Des fondations et encore, genre, les commandes que j'ai eues, oui, c'est des organismes publics ou parapublics, qui est dans ma bio d'ailleurs.
Ouais, des institutions.
Des institutions, oui. Des secteurs institutionnels ou para-institutionnels.
Tu m'as passé une bio de toi, manuscrite, et dans une case tout au début, tu mets autodidacte et tu soulignes le terme. C'est une fierté, ça ?
D'une certaine manière, d'être autodidacte, c'est d'être libre aussi. Oui, j'ai pas fait exprès d'être autodidacte, c'est parce que j'étais malade que j'allais dire que j'ai pas été poursuivi par les études. Je suis un inconditionnel de la radio de France Culture. Je veux dire, la nuit, souvent, j'écoute et j'apprends beaucoup par les journaux, mais enfin bon, j'ai du mal maintenant à lire, mais par la radio et la télévision, avec les meilleures chaînes en ce sens, c'est-à-dire France 5 et Arte. Cet enseignement-là, pour moi, il est permanent. Quand on dit on apprend à tout âge, j'en suis convaincu.
Est-ce que tu crois qu'un jeune photographe autodidacte pourrait avoir les mêmes opportunités aujourd'hui ou...
Le passage par des écoles, des études supérieures ou une école de photographie n'est pas forcément un gage ni de réussite, enfin au sens gagner sa vie avec, ou un gage de notoriété ou de qualité professionnelle. C'est pas forcément un choix d'être autodidacte, ça peut être le hasard de la vie, hein. Oui, je pense que des jeunes peuvent être autodidactes. Il n'y a pas de raison que... Et je ne vois pas les raisons pour lesquelles ce serait différent aujourd'hui que du temps où je le fus pour la première fois, qui remonte à loin. Je ne dis pas quand on fait des études, on est conditionné, mais ça peut te donner peut-être certaines, plus ou moins certaines œillères. Je ne suis pas convaincu de ce que j'avance, hein, d'ailleurs, parce que ça dépend des caractères, des personnalités, bien sûr.
Tu dis quand même être autodidacte, c'est être libre.
Je dis ça sans être sûr de ce que j'avance. Je dis ça dépend des personnalités, mais je veux dire, avoir fait des études supérieures, des écoles, ça peut éventuellement restreindre, ton regard. Encore une fois, ça dépend des gens, hein. Mais je n'ai pas honte d'être autodidacte. J'ai quand même fait tout ce que j'ai fait, y compris travailler avec des scientifiques de nombreuses fois, tout en étant autodidacte. Je veux dire, le fait d'être autodidacte ne m'a pas donné le moindre complexe à leur égard. Ça ne m'a jamais gêné. Pour décrocher des commandes importantes, on m'a jamais demandé mes diplômes.
C'est quand même une vie, 70 ans de photo, c'est quand même une vie extrêmement riche et bien remplie. Des regrets ?
Non, aucun regret, non. Bien rempli, ça c'est sûr. Oui, parce que j'ai toujours été passionné par mon travail. Oui, c'est une passion. Marcel parlait de ma curiosité, oui. Avec des thèmes récurrents, hein, l'immigration, l'habitat, le quotidien dans ces diverses interdépendances, des temps et des besoins des gens, le transport, l'habitat, le travail, la consommation, la vie sociale, et la charpente de mon exposition des images en partage à Aix en 2023 était bâtie sur ces temps quotidien, hein, des besoins de chaque jour pour tout un chacun qui habite la France ou la Patagonie.
On va peut-être s'arrêter là.
Oui, oui.
Ah, je ne sais pas, est-ce que M. Jacques Vinnenberger, photographe, documentaire, est-ce que vous avez envie de dire un mot de la fin ?
Je n'ai pas de mot de la fin. Moi, la fin, c'est quand je ne serai plus là. Je veux dire, je n'ai pas fini pour l'instant.
Alors, il fut un temps que les jeunes de moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Une émission de Bernard Pivot, apostrophe.
Oui.
Et à chaque fin d'émission, quand il recevait des auteurs, il leur demandait si vous vouliez avoir un épitaphe sur votre tombe, ça serait quoi ? Et vous, ça, et toi, ça serait quoi ?
Photojournaliste.
Jacques Vinnenberger, photojournaliste.
Oui.
Ok, bah, écoute, merci.
C'est moi qui...
Ah, c'est quoi ? Je vais faire une photo du photographe à son bureau.